La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous tous ici dans cette maison de prière. Bienvenue à la famille qui amène son garçon, son petit garçon, au baptême aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous accueillir ici dans ce lieu qui est votre lieu, votre maison de prière, et nous espérons un lieu où vous reviendrez souvent nous retrouver pour partager avec nous la parole. Nous avons ce matin, vous l'avez compris, un baptême, et nous sommes heureux de pouvoir partager ce temps ensemble dans ce début d'été. Nous avons la chance de compter beaucoup de baptisés ici, et c'est une joie renouvelée pour nous de pouvoir partager cela avec toutes les familles qui s'approchent de cette église. Je vous invite à la prière pour entrer dans ce temps de culte et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui poussent pour la première fois la porte de ce temple, qu'ils soient ici chez eux. Seigneur, nous sommes rassemblés ce matin dans cette église pour écouter ta parole, pour chanter ta louange, pour nous retrouver dans la communauté de prière et de joie que tu souhaites pour tes enfants. Permets que cette communauté vivante rassemblée ici ce matin soit signe de vie et signe de ta grâce donnée à chacun inconditionnellement. Donne-nous d'être des témoins de ton amour pour ce monde et que notre foi fasse grandir notre amour du prochain. Envoie ton Esprit Saint sur nous ce matin, Seigneur, et permet que nous soyons toujours unis dans ta parole. Et nous nous réunissons dans la communion fraternelle avec le livret qui est inséré au début des psautiers. Vous avez un livret qui vous donne toute la liturgie du culte et qui vous permet de suivre tous les répons et les cantiques sont indiqués sur les tableaux. Je vous invite à chanter ensemble et nous nous levons pour ce premier répons. Et nous louons le Seigneur avec le psaume 19, du chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le jour annonce au jour, la nuit l'explique à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur voix. Leurs mesures apparaissent sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. C'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Celui-ci, tel un marié sortant de sa chambre, tout content, se met en route, tel un vaillant guerrier. Il s'élance des extrémités du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien n'est à l'abri de sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure la vie. Le témoignage du Seigneur est sûr, il rend sage le naïf. Les directives du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il fait briller les yeux. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à jamais. Les règles du Seigneur sont vérité, elles sont toutes justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin. Plus douce que le miel qui coule des rayons. Moi-même, ton serviteur, je suis averti par elle, pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui peut connaître ses erreurs involontaires? Tiens-moi pour innocent de ce qui m'est caché. Préserve-moi aussi des gens arrogants, qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés de toi, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Je vous invite à chanter notre louange avec un autre psaume, le psaume 92, les strophes 1, 2 et 3. Et en ce jour de baptême, pour Matthieu particulièrement ce matin, nous allons chanter cette quatrième strophe qui lui est particulièrement dédiée. « Tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant. » Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons continuer ce temps en écoutant la volonté du Seigneur pour nous. Et la volonté du Seigneur, c'est que nous soyons comme les enfants pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et voilà ce qui est écrit dans l'Évangile. Il appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. » Et nous nous présentons devant le Seigneur pour entrer dans cette humilité des enfants, nous nous plaçons devant Dieu et nous pouvons lui dire ce qui parfois nous sépare de lui. Et nous empruntons les mots de Jean Racine pour ce faire. Mon Dieu, quelle guerre cruelle! Je trouve deux hommes en moi. L'un veut que, plein d'amour pour toi, mon cœur te soit toujours fidèle, l'autre à tes volontés rebelles me révolte contre ta loi. L'un, tout esprit et tout céleste, veut qu'au ciel sans cesse attaché et des biens éternels touchés, je compte pour rien tout le reste. Et l'autre, par son poids funeste, me tient vers la terre penchée. Hélas, en guerre avec moi-même, où pourrais-je trouver la paix? Je veux et n'accomplis jamais. Je veux, mais ô misère extrême, je ne fais pas le bien que j'aime et je fais le mal que je hais. Ô grâce, ô rayon salutaire, viens me mettre avec moi d'accord et domptant par un doux effort cet homme qui t'est si contraire, fais ton esclave volontaire de cet esclave de la mort. Amen. Mais le Seigneur redit sa grâce à quiconque se tourne vers lui. Et à travers les paroles du prophète Ésaïe, il dit « Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. » Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons pouvoir entrer dans ce temps du baptême ce matin. Hélène et Arnaud, vous avez demandé que votre enfant reçoive le baptême. Je vous invite avec les parrains et marraines de ce petit garçon à venir me rejoindre. L'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie et affirme sa foi avec vous, avec les mots que vous avez vous-même choisis. Je vous invite à me rejoindre avec le parrain et la marraine du petit garçon qui va être baptisé et bien sûr sa grande sœur qui peut-être a envie d'être avec nous aussi puisqu'elle-même a été baptisée dans cette maison. Ça va, Mathieu. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi ensemble avec les mots que la famille du petit baptisé d'aujourd'hui ont choisis. Je crois en un Dieu unique, un Dieu d'amour, libre et tout-puissant, créateur des choses visibles et invisibles. Il parle à tous les cœurs et nous aime sans condition. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu et homme, venu pour annoncer la grâce que Dieu donne gratuitement à tous. Toujours vivant, Il nous appelle à construire aux côtés de Dieu un monde de justice, d'amour et de paix. Je crois au Saint-Esprit, puissance créatrice, présence et sagesse de Dieu, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Je crois que la véritable nature de l'homme, image de Dieu, est de faire le bien. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons dans la dignité et la liberté. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir et nous allons ensemble reprendre comment a été institué le baptême. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Votre enfant va être baptisé au nom du Père, qui lui donne le souffle de vie. Il va être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour lui et qui l'appelle à son service. Il va être baptisé au nom du Saint-Esprit, qui fera naître en lui, c'est ce que nous espérons, la foi, l'espérance et l'amour. Il y a de l'eau dans ce baptistère, de l'eau qui est tout à fait ordinaire, elle n'a rien de spécial, mais avec la parole de Dieu, cette eau devient eau du sacrement du baptême, c'est-à-dire eau d'une nouvelle naissance. Nous sommes tous nés dans l'eau, et cette eau particulière du baptême nous rappelle que nous pouvons naître à nouveau dans la foi avec Jésus-Christ, dans l'amour de Dieu. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai aussi pour nos enfants, quand bien même ils ne le sauraient pas encore, eux qui sont si petits. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Je vous invite à vous lever pour être témoin du baptême qui va se produire ici. On y va ? Ça va aller, Mathieu ?
Oui, ça va très bien.
Mathieu, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. C'est agréable quand les baptisés rient quand même. Mathieu, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle t'est donnée aujourd'hui. Je crois que c'est le seul qui a de la chance ce matin à se rafraîchir ainsi à l'eau du baptême. Voilà, je vous invite maintenant à dire pour Mathieu ce que vous avez souhaité dire pour vous engager auprès de lui dans le chemin qu'il commence dans l'Église.
Matthieu, lorsque nous nous sommes mariés, nous avions pour projet de fonder une famille. Après Viviane, il y a 5 ans, nous avons eu l'immense bonheur de t'accueillir il y a maintenant 3 ans, bonheur qui ne cesse de grandir depuis.
Nous souhaitons que tu grandisses entouré d'amour et que tu continues à en donner, comme tu sais si bien le faire. Nous souhaitons aussi que tu puisses te développer grâce à certaines valeurs, notamment l'amour, le partage, l'honnêteté, la générosité, la solidarité et le courage.
Nous nous réunissons ici, à l'Oratoire du Louvre, où nous retrouvons depuis maintenant quelques années les valeurs qui sont les nôtres. Nous espérons que ce baptême nous aidera à te guider vers ces valeurs et vers une vie épanouie. Nous espérons qu'il t'aidera à réfléchir et à définir la personne que tu souhaites être.
Nous espérons que tu trouveras ce dont tu as besoin pour cela, dans les bons moments, comme dans les difficultés, grâce à l'Église réformée, grâce à ta marraine Charlotte et ton parrain Pierre, que nous remercions d'accepter ce rôle et que nous sommes fiers d'avoir à nos côtés, et grâce à notre famille et à nos proches.
Merci. Très cher Matthieu, cher Arnaud et Hélène, chère famille, et à vous tous qui vous rassemblez ici pour célébrer votre foi. Arnaud, Hélène, merci de nous faire l'amitié et la confiance d'endosser le rôle de parrain et marraine de Matthieu. C'est une tâche plutôt aisée car cet enfant grandit assurément dans l'amour. Il trouve en chacun des membres de sa lignée de merveilleux guides pour lui tenir la main et l'aider à marcher dans un monde souvent questionnant. S'il était un petit arbre, alors aucun doute que ses racines lui conféreraient un ancrage solide et une source nourricière de belles valeurs humaines. Mais alors, quel rôle pouvons-nous jouer auprès de lui ?
L'amour qu'il reçoit de vous l'ouvre au monde, l'ouvre aux autres, le prédispose à une myriade de rencontres qui seront autant de branches qui enrichiront son avenir. En nous plaçant si tôt dans sa vie, à cette place particulière, vous faites de nous 2 branches solides qui se renforceront au fil du temps dans les liens que nous espérons continuer de développer avec lui. 2 branches qui seront soutien de futures pousses, 2 appuis sur lesquels se reposer, et auprès de qui exprimer les questions, doutes, crainte face au choix que la vie lui réservera. Nous l'aiderons à se déployer vers un ciel dans lequel il trouvera parfois de ses réponses et parfois seulement des questions. C'est le chemin de la foi et une vie ne suffit pas à en faire le tour. Mais sur ce chemin, il pourra nous tenir la main.
Merci. Merci beaucoup pour ces mots qui nous redisent aussi le sens du baptême et le sens aussi de l'éducation que nous donnons à nos enfants et combien il faut être présent auprès d'eux. Je vais maintenant vous présenter cet enfant, s'il veut bien venir. Tu viens avec moi, Matthieu ? Oui, tu viens ? On va venir. Tu peux marcher, hein ? Tu es très fatigué ou ça va ? Ça va ? Bon, alors viens avec moi, tiens, voilà. Alors, c'est Viviane qui t'emmène ? Non, c'est peut-être moi qui t'emmène. Regarde, j'emmène avec Viviane. Voilà. Très bien. Parce qu'on a besoin de sa grande sœur quand on est comme ça, un peu intimidé. Hein. Alors voilà, j'en profite pour vous présenter Viviane en même temps. Voici Viviane et Matthieu. Matthieu a reçu le baptême aujourd'hui. Viviane l'a reçu il y a quelque temps, mais dans un baptême qui s'était produit hors de l'assemblée du culte dominical. C'est l'occasion de vous la présenter en même temps. Et nous sommes heureux de les accueillir tous les deux dans cette communauté. Vous êtes leur famille spirituelle, vous êtes leurs frères et sœurs, vous êtes maintenant ceux qui prieraient pour eux et pour leur famille. Si jamais un jour ils viennent à se séparer de l'Église de notre Seigneur, vous affirmerez qu'ils peuvent toujours y retrouver leur place, quoi qu'il arrive. Vous serez ainsi des témoins de l'amour de Dieu pour eux, cet amour inconditionnel qui ne se désespère jamais de nous. Voilà, nous avons maintenant des petits frères et sœurs supplémentaires. Voilà, je vous invite à les saluer par vos applaudissements et ensuite votre chant. Ça va aller ? Merci beaucoup à vous. Voilà, je vous invite à chanter sans plus tarder le 204 qui est le cantique que nous réservons aux baptisés pour qu'ils puissent ouvrir leur chemin avec nous.
Je vous invite à vous asseoir. Et nous prions pour rendre grâce à Dieu. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Matthieu, qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour lui et pour sa famille. Permets qu'ils soient tous autour de lui, dans le même élan d'amour que tu as pour nous. Donne-lui toujours que nous soyons près de lui, que nous puissions répondre à ses questions ou nous questionner avec lui. Amen. Je vous invite à entendre le texte biblique qui a été choisi pour aujourd'hui, pour cette occasion particulière, cette fête pour la famille Robin. Et c'est dans le livre des psaumes que nous lirons ce matin. Et je devrais dire que nous méditerons ce matin, car ce n'est pas une lecture comme les autres. Il s'agit du psaume 23. Psaume de David. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu enduis ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 202, les strophes 1, 2 et 3. Dans les louanges et prières. Thank you. Et nous prions ensemble avant de méditer ce psaume. Et nous prions avec Thomas d'Aquin. Seigneur, toi qui es la source de la lumière et de la sagesse, donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la sagacité pour interpréter et une grâce abondante pour m'exprimer. Dispose le commencement, dirige le progrès, couronne la fin. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Prêcher sur le psaume 23 est vertigineux. Alors prêcher ici encore plus, vous avez compris pourquoi. Ce texte est tellement connu, partagé par tant de gens, il est encore appris par cœur par beaucoup. Et au cours de mes visites, je m'aperçois que ce psaume est dans beaucoup de maisons. Sa lecture est demandée au moment des deuils. Il est le compagnon fidèle récité dans le secret du cœur ou partagé dans la communion fraternelle, dans un temps de culte. Considéré par d'autres comme le texte qui leur a sauvé la vie. J'ai déjà entendu ça. Il fait donc partie de ces trésors culturels qu'on ne peut commencer à interpréter et à commenter sans les trahir. Ce poème aurait pu être tenu comme un texte symbolique pour fonder nos églises, parmi tous les textes symboliques, comme par exemple le symbole des apôtres, hein, qui est un texte extrêmement important pour fonder l'église chrétienne. L'histoire de nos institutions en aurait sans doute été changée, car instituer une église sur un poème de confiance nous aurait peut-être épargné beaucoup de violence à travers les âges, qui sait. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette déclaration résonne comme une confession de foi. Qui peut jamais être certain de ne manquer de rien dans sa vie? Depuis l'enfant jusqu'à la vieillesse, il manque toujours quelque chose à notre vie. L'homme est éminemment fragile et dépendant. Une condition qui n'est pas très enviable, sans doute, mais c'est cette condition qui fait notre humanité même. En effet, si nous ne manquions de rien, jamais, si nous étions des êtres autosuffisants, sans doute n'aurions-nous pas développé de tels trésors de langage pour dire notre condition. Si nous ne manquions de rien, sans doute le psaume 23 n'existerait-il pas. Le psalmiste dit pourtant le contraire du manque. « Je ne manquerai de rien », affirme-t-il. Mais cette seule affirmation suffit à faire comprendre l'espérance et la foi qui naissent d'une expérience de la prière. C'est en terrain connu que le psalmiste s'avance ici. Il connaît les risques de la vie et les manques qui la parsèment. Et c'est ce qui lui fait prononcer cette déclaration de foi. je ne manquerai de rien. Comme un mot placé devant lui, une sorte de talisman, quelque chose qui pourrait faire repousser tout ce qui est adverse dans sa vie. La langue des psaumes est une langue concrète. Elle exprime des sentiments et des peurs, des états psychiques très subtils, mais toujours en figurant concrètement les choses, comme la langue des Hébreux le fait. Dans le psaume, les comparaisons et les détails concrets ne manquent pas. Ainsi, par exemple, pour dire la relation du psalmiste à Dieu, c'est la figure du berger qui est employée. Ou encore pour dire la paix de l'âme, le poète utilise l'image du repos dans de verbes pâturage. Comme souvent en poésie, le propos n'est pas conceptuel mais symbolique. Et ce sont ces symboles qui font sentir à l'auditeur l'état dans lequel est l'auteur. Le psaume 23 est plein de sensations. Le corps s'y repose, marche sur des sentiers, affronte l'obscurité, voit la houlette et le bâton du berger, peut-être sent-il même la houlette autour de son cou quand il s'égare. On y sent l'onction d'huile qui coule sur la tête, on y sent le confort de la maison à la fin du psaume. Louis Montloubou, un prêtre qui a écrit l'imaginaire des psalmistes, psaumes et symboles, pense que dans les psaumes, le corps est bien le point de repère primordial à partir duquel l'homme construit sa représentation du monde, de la société et de Dieu même. Il s'appuie sur le travail anthropologique de Gilbert Durand et le résume en trois attitudes de l'homme: l'homme debout, l'homme assis et l'homme qui marche. Ces trois figures s'associent à des symboles qui, mis ensemble, donnent une cartographie anthropologique de la condition humaine. Dans le psaume 23, ces attitudes prennent tout leur sens dans le repos, le cheminement et le retour à la maison du Seigneur. C'est peut-être parce qu'il cumule ces trois aspects d'une anthropologie universelle que ce psaume parle tant à tant de gens, tant de croyants ou non-croyants. Le psaume 23 parle à notre être tout entier, et c'est ce qui lui vaut une telle postérité. C'est un texte à vivre plus qu'à penser. Le fait même de réciter ce psaume change l'état de celui qui le récite, car il n'est pas informatif, il n'est pas conceptuel, on pourrait dire qu'il est existentiel, et à coup sûr, ses paroles sont performatives. La scansion même des vers est créée pour que la respiration tranquille puisse s'y inscrire. Les vers des psaumes sont ainsi toujours équilibrés et assez courts pour qu'on puisse les dire sur le rythme d'une respiration douce et tranquille. Ces poèmes s'inscrivent donc dans le souffle, dans ce qui, selon la culture juive, fait la vie. Entre le creux et le plein, les psaumes expriment cette expérience de l'être humain devant Dieu. On dit que le psaume est un cri, cri de joie. Oh, que ces choses belles, Seigneur, dans le psaume 92 par exemple, ou cri de détresse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le psaume 22, parole qui sera placée dans la bouche de Jésus dans les évangiles au moment de la croix. Le psaume est un cri de l'homme fini vers l'infini, du petit vers l'immense. C'est pourquoi la poésie des psaumes crie et ne chante pas seulement. Elle essaie de rejoindre Dieu malgré l'immensité qui le sépare de l'homme. Souvent, c'est un homme seul qui crie. Mais le psalmiste du psaume 23 est un de ceux qui parlent doucement et son cri est intérieur, comme si Dieu s'était fait proche de l'homme, comme si l'infini était enfin venu habiter le fini. La tradition attribue les cinq collections de psaumes à des auteurs différents et David fait partie dans la tradition de ces auteurs. Cette relation entre les psaumes et le roi David est décrite dans le Midrash Tehillim, ce commentaire des Tehillim, donc des psaumes en hébreu, qui est en fait une méthode herméneutique d'exégèse biblique qui fonctionne par comparaison entre les différents passages bibliques. Et dans ce midrash, il est écrit « De même que Moïse a donné 5 livres de la loi à Israël, de même David a donné 5 livres de psaumes à Israël. Enfin, de même que Moïse bénit Israël avec les mots « Béni sois-tu Israël », de même David bénit Israël avec ces mots « Heureux l'homme, béni l'homme » dans le psaume 1. David est ainsi élevé au même rang que Moïse par ce commentaire midrashique. Il faut raconter ici l'histoire mythique qui entoure les psaumes dans la culture juive pour comprendre l'importance du lien de David à ses poèmes. Dans l'imaginaire qui entoure les psaumes, on raconte que le monde aurait été créé pour faire monter un chant de joie vers Dieu. On peut relire ici le psaume 19 que nous avons lu en louange de ce culte. Dieu avait nommé Adam maître de cœur de l'univers, dit la légende. Mais Adam se laissa aller au péché et entraîna l'univers dans sa chute. Dans son repentir, il parcourut l'avenir. Il y cherchait l'âme unique qui rendrait au monde sa capacité de chanter la gloire de Dieu. Et c'est alors qu'il découvrit David. Selon cette légende, David est donc celui qui restaure la louange vers Dieu et ainsi restaure la vocation du monde que Jean Calvin avait lui-même pointé quand il représentait la création comme théâtre de la gloire de Dieu. David n'est pas un homme parfait, loin de là. Il n'est pas exempt de compromission. Il ira jusqu'à faire tuer son meilleur ami pour lui prendre sa femme. Il endure des peines terribles, comme par exemple la mort de son fils. Ce n'est donc pas en raison de sa perfection et de sa toute-puissance qu'il est choisi pour faire aboutir le désir de Dieu de faire du monde une louange. Mais David est celui qui chante à Dieu ses joies et ses tourments, quelles que soient les circonstances. Seul un homme comme David peut continuer à chanter lorsqu'il est écrasé par l'adversité. C'est cette constance du chant qui vaut à David d'être celui à qui l'on a confié la tâche d'être le chantre de Dieu. David a la capacité de confesser son péché, de dire sa reconnaissance, de crier sa détresse avec une telle sincérité qu'il est l'image même de l'homme devant Dieu, en toute confiance. Selon une autre tradition, les 3 lettres de la racine du nom Adam, Adama en hébreu, A-D-M, alors je ne vous les dis pas forcément en hébreu, porteraient en germe les 3 porteurs de cette vocation de chantre de la création de Dieu. Adam, David et le Messie, A-D-M. Car selon la tradition, Adam l'aurait commencé, David l'a continué, et le Messie l'accomplira. Ainsi, le psaume universel est une attente messianique, une façon de dire que le monde soupire après son Créateur. Jésus l'a-t-il accompli ? Les chrétiens le croient, alors que nos frères juifs attendent un autre Messie. Sans doute l'incarnation a-t-elle quelque chose à voir avec cette sagesse qui donne à la parole, au logos, au langage, le pouvoir de parler au corps, de rencontrer l'homme dans son entièreté, dans ses sensations comme dans ses sentiments. La figure du Christ s'inscrit dans cette lignée de la parole s'adressant au corps et à l'âme, et qui deviendra lui-même un corps parlant dans la crucifixion et dans la résurrection. Lui aussi est considéré comme le bon berger, et cette figure du berger parcourt toute l'histoire du peuple juif qui se constitue dans l'universalisme du christianisme. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors que donne-t-il enfin ce berger ? Il me conduit, il m'accompagne sur les bons sentiers, Il prend parti pour moi contre mes adversaires. Il ne donne pas de biens matériels tels que l'or ou l'argent, mais il est là, toujours, sans jamais abandonner celui dont il est le Seigneur. Le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà la promesse que renferme ce psaume. Avec Dieu, l'homme n'est jamais seul, jamais abandonné, jamais négligé. Plus qu'une leçon de vie que Dieu donnerait à son fils, le psaume du berger dit en fait une évidence de la foi. C'est le fils qui sait que le père est toujours là. Dieu est fidèle et n'abandonne pas ceux qui se tournent vers lui. Cela n'empêche pas de crier parfois comme on crie dans un désert, de ne pas retrouver Dieu quand on le cherche. Mais ce cri même dit quelque chose de la relation de l'homme à Dieu, qui est une relation de confiance. À quoi bon chercher si l'on ne sait pas quel secours on aura? Il faut bien donc que l'on soit convaincu que Dieu viendra au secours si l'on crie ainsi. Avec Dieu, je peux être sincère, et si je ne le trouve plus auprès de moi, je peux l'avouer, dire son absence. Et si je me sens coupable, si je suis coupable devant lui, je peux le dire aussi. Et si la joie revient et m'envahit, je peux exulter. Le psaume dit cette possibilité de l'homme d'être proche de Dieu, de ce qui est transcendant dans une relation presque charnelle, concrète, tout près de nous. Ainsi, lire les psaumes nous apprend à prier et nous donne des mots pour exprimer la condition humaine. Emprunter les mots du psaume 23, c'est entrer dans un chemin de confiance sur lequel même la solitude ne se retrouve pas toujours, et l'on se retrouve à marcher à deux. Le berger est à la fois guide, garde et guérisseur. Il est des textes qui sont de véritables chemins de vie, de véritables compagnons. Si celui-ci peut devenir le nôtre et celui de l'enfant qui a été baptisé aujourd'hui, alors le bonheur et la fidélité nous accompagneront chaque jour de notre vie et nous saurons pourquoi nous revenons dans la maison du Seigneur. Il est temps d'apprendre les psaumes, frères et sœurs. Il est temps de les lire, de les relire et de les apprendre pour que personne ne puisse nous les prendre jamais. Et que, quel que soit le lieu où nous nous trouverons dans notre vie, dans le bonheur ou dans l'adversité, nous puissions emprunter ces mots comme nous empruntons un chemin de vie. Sans doute, nous devons ici être une maison où l'on peut trouver des mots pour dire notre vie devant Dieu, des vers pour chanter notre amour et des poèmes pour guérir et apaiser nos vies de chair. Que nos églises ressemblent à des maisons de prière, à des maisons de psalmistes, à des lieux où la poésie entre aussi. Amen.
Thank you.
Je vous invite à chanter le cantique de la résurrection, le cantique 150, « À toi la gloire ». Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons partager quelques annonces. Et c'est Sophie Sonu qui fait partie du conseil de l'entraide, ici de l'association de l'entraide, qui partage les annonces aujourd'hui avec nous.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je commencerai donc ces annonces par tout d'abord remercier notre pasteur, Béatrice Cléromazir, pour sa prédication et à Aurélien Péter à l'orgue. Les prédications ont été imprimées et vous pouvez donc vous servir. Elles sont à l'entrée. Il y a les mercredis bibliques cet été qui continueront jusqu'au 24 juillet. Donc la prochaine a lieu le 10 juillet. Le thème en fait principal, c'est « La Bible parle-t-elle de l'écologie ?» pour ces mercredis bibliques. Et donc le 10 juillet, plus précisément, cela portera sur nos rapports à la finitude de la Genèse 3, animée par le pasteur Patrice Rollin en salle Verne, 4 rue de l'Oratoire, à la maison presbytérale en face, de 14h30 à 13h30. L'entrée est libre. Dimanche prochain, il y aura donc un culte, le 14 juillet, culte présidé par Béatrice et Aurélien. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie d'autre ? Non, je pense que c'est bon. Si, voilà. Hop. Paul Tillich a écrit un nouveau livre, « Quand les fondations vacillent », voilà, qui est en vente à la librairie. Je vais vous faire part maintenant, malheureusement, d'une mauvaise nouvelle. Le décès de Madame Deveau à Valenciennes. Madame Deveau était la mère de Gilles Deveau, le président de l'entraide de l'Oratoire. Toutes nos pensées vont vers Gilles et à sa famille.
Merci, merci Sophie. Merci beaucoup.
Collecte. Ah oui, oui, et bientôt, oui, nous allons procéder à la collecte de l'entraide.
Voilà. Donc le produit de la collecte sera reversé à l'entraide. Merci pour votre générosité.
Merci Aurélien pour cette marche sur les sentiers de la justice, ça doit être ça sûrement. En tout cas, j'ai une autre annonce à vous faire importante, c'est que dimanche prochain, si vous souhaitez partager ce temps de culte avec nous, c'est le 14 juillet, et donc il vaut mieux éviter de venir en voiture parce que vous serez forcément bloqués dans les parages. Donc prenez vos précautions avant le culte et arrivez bien en avance et sans voiture si possible, parce que ça va être compliqué. Vous pouvez retrouver toutes les annonces de l'été sur le site internet de l'Oratoire du Louvre. N'hésitez pas à vous connecter là et aussi à demander à recevoir la newsletter de l'Église en vous inscrivant comme paroissien ici. Vous pouvez bénéficier de ce service. Je vous invite maintenant à continuer ce temps de culte avec la prière et je vous invite donc à prier ensemble. Seigneur, nous te prions pour les enfants que nous baptisons, pour leurs familles, pour tous ceux qui s'approchent de nos églises et qui cherchent un chemin, pour tous ceux qui veulent perpétuer le chemin que leurs ancêtres leur ont montré, pour tous ceux qui ne savent pas qu'il y a un chemin quelque part pour eux. Permets, Seigneur, que nous soyons là tels des éclaireurs, que nous puissions être auprès de tous, pour leur permettre de trouver leur chemin de foi. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui, en ce temps d'été, sont seuls. Permets que nous ne cessions pas de faire tes œuvres, Seigneur, que nous soyons là pour les autres et que nous n'oublions pas notre service, car la misère, malheureusement, ne prend pas de repos. Donne-nous, Seigneur, des cœurs ouverts et constants. Permets que nous soyons à ton image toujours là, quand les autres nous cherchent. Permets, Seigneur, que nous soyons l'image de ta grâce pour ce monde. Nous te remettons, Seigneur, la famille de Gilles, endeuillée, et toutes les familles endeuillées qui, pendant ce temps d'été, ont de la peine à se retrouver à prier ensemble, à parler ensemble au moment terrible de la séparation. Permets, Seigneur, que nous les y aidons. Ensemble, nous te disons, et nous nous levons pour cela, la prière que nous avons apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez, frères et sœurs, guidés par votre berger, il est auprès de vous, il ne vous abandonne jamais. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce vous bénit et vous garde. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir juste un instant pour prendre le temps d'écouter notre organiste qui a préparé un morceau pour nous. Ceux qui doivent absolument partir parce qu'ils sont très pressés, partez. Mais sinon, pour les autres, vous pouvez prendre ce temps tranquillement avec nous. Merci beaucoup. Et je signale aussi que dimanche prochain, nous avons deux baptêmes ici de la famille qui... Alors pardon, il y a deux familles, donc c'est la famille Mel et la famille... Et Bourrien, voilà, c'est ça, j'avais oublié un des noms de famille, pardon. Donc c'est les enfants Bourrien qui vont être baptisés dimanche prochain. Donc venez nombreux les entourer et vivre ce moment. Merci beaucoup.